Eric Younes, oui. L'événement culturel cette semaine a lieu au Louvre. C'est la grande rétrospective de la Croix. Elle ouvre ses portes au public jeudi, nous sommes le 29 mars. Il n'y a pas eu de grande exposition de la Croix à Paris depuis 1963.
Oui, et on croit tous connaître de la Croix parce qu'on connaît ses œuvres les plus célèbres.
Ah bah alors, La liberté guidant le peuple, dans tous nos livres d'histoire, Dante et Virgile, Les massacres de Scio, c'est bien
de
ça
Scio, voilà,
et puis Sartre de la Page.
Bien évidemment, qui sont tous au Louvre. Le musée possède la plus importante collection de la Croix au monde. Eh bien, ses chefs-d'œuvre, Delacroix les a peints dans ses années de jeunesse entre 1822 et 1834, c'est-à-dire entre 24 et 36 ans. Mais il a continué à peindre pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1863. Il a réalisé des œuvres très différentes et c'est cette variété qui est à l'honneur dans l'exposition que propose le Louvre, une sélection passionnante parmi les 800 peintures et quelques milliers de dessins de la main du maître.
Alors, des portraits, des chevaux, des femmes d'Alger, enfin tout ça on connaît.
Oui, mais des bouquets de fleurs, des naufrages, des Christ en croix, moins. Alors Delacroix est un écrivain raté. Enfin, pas si raté que ça, mais parmi les milliers de pages de ses articles, lettres, essais, tentatives de journal, il y a des pages bouleversantes. Certaines sont exposées sous vitrine. On se demande en voyant la fin de son premier journal s'il n'avait pas un peu forcé sur l'absinthe.
Ah bah si, on connaît la réponse.
Delacroix est un virtuose, curieux de tout, épris de gloire et acharné de travail, m'a expliqué Sébastien Allard, le directeur du département de peinture du musée du Louvre.
Delacroix est un enfant de la Révolution. Il grandit au lycée impérial, l'actuel lycée Louis-le-Grand, dans le culte de l'Empire, de la guerre, de la gloire militaire. Et en 1815, c'est la chute de l'Empire, l'Europe est pacifiée, et donc Delacroix se dit « mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus avoir cette gloire militaire ». Alors il dit « ben tant pis, je serai poussin ou rien ». Donc je deviendrai artiste. Mais l'idée de guerre est présente évidemment dans son esprit et il la représente à travers le prisme des événements de libération de la Grèce qui se passent à l'autre bout de l'Europe.
Mais Delacroix innove en représentant la guerre. Le massacre de Scio ne montre pas des combattants, mais une famille grecque attendant la mort ou l'esclavage. Et pensez que c'est exactement ce que nos photographes de guerre nous envoient de Syrie aujourd'hui. Oui. Et vous saisirez la modernité de Delacroix dans ce tableau-là. Car on peut être beaucoup moins sensible à ses bouquins de fleurs, par exemple.
Delacroix est tout sauf un artiste maudit.
C'est la preuve vivante qu'on peut avoir du génie et du succès. Delacroix entre au musée de son vivant, au musée du Luxembourg, qui préfigurait le musée du Louvre. Dante et Virgile aux Enfers, son premier chef-d'œuvre a été acheté par l'État en 1822. Les scènes des massacres de Scio en 1824, la mort de Sardanapale en 1828. D'ailleurs, une des plus belles surprises de l'exposition, ce sont les esquisses réalisées par Eugène Delacroix de Sardanapale. Elles vous sont commentées par Sébastien Allard.
Sardanapale, c'est un roi de Ninive qui sait que la ville est prise, qu'il va donc être exécuté et donc qu'il réunit autour de son lit tout ce qu'il a aimé. Ses femmes, ses chevaux, ses trésors, et il va mettre le feu et s'immoler. Donc c'est un sujet terrible. Là, on voit comment Delacroix veut frapper par le sujet l'imagination des spectateurs. Il n'y a plus de perspective, c'est un amas de corps, de bijoux, d'objets. Il y a un grand cheval qui surgit à gauche de la composition, on ne sait pas d'où, des esclaves qui tirent tout ce monde, et c'est une sorte d'orgie de couleurs. En fait.
Finalement, Delacroix est un très fin stratège, dites-moi.
Oui, c'est tout sauf un rebelle. C'est un fils de famille un peu ruiné mais prestigieux. Son père fut ministre des Affaires étrangères et sa mère descend d'une grande famille d'ébénistes du roi. Il a vite compris qu'une des meilleures façons de se faire connaître était de faire scandale. Et son plus grand coup d'éclat en 1831 est la célébration de l'arrivée de Louis-Philippe en peignant le fameux « La liberté guidant le peuple », cette femme nue brandissant un drapeau bleu-blanc-rouge sur une barricade.
La chose la plus frappante de ce tableau, c'est que la liberté, elle vient sur vous. Soit vous la suivez, soit elle vous écrase. Et d'ailleurs, ce côté un petit peu trop véhément va faire que le tableau va être acheté par le gouvernement, puisqu'il le célèbre, et presque immédiatement mis en réserve, parce qu'on va le trouver un petit peu trop violent, véhément, et même rendu à l'artiste en 1839.
Il faut dire qu'elle a une belle paire de seins, la République. Oui. Alors, il a beaucoup voyagé, Delacroix.
Pas tant que ça. Il a fait deux voyages. Le premier en Angleterre, en 1820, pour connaître cette ville moderne, aux multiples marchés et débouchés, où il découvre l'art du portrait et surtout la peinture animalière. Vous verrez de majestueux lions rugissants au Louvre. Mais le voyage le plus déterminant, c'est celui qu'il fait en compagnie du comte de Mornay à Tanger, Meknès et Alger. Une révélation pour lui. Il est autant fasciné par la lumière que par la population, l'ensemble représentant pour lui une sorte d'antiquité vivante, et au retour, il va peindre les femmes d'Alger dans un intérieur.
trois femmes dans un intérieur extrêmement luxueux avec des tissus, des soieries, des miroirs, une sorte d'image idéale de l'Orient qu'on pourrait penser un Orient éternel. Et si on regarde la femme au centre de la composition, elle a accroché à son gilet une montre contemporaine. Donc ce que Delacroix nous dit, c'est que ce sont des femmes de notre temps. Donc lui ne peint pas des odalisques imaginaires comme avait pu le faire Ingres ou les autres peintres qui n'étaient pas allés en Orient. Lui, il peint des vraies femmes des années 1830 qui vivent en Algérie.
Dites-moi, après ses chefs-d'œuvre, il tombe dans l'oubli ?
Mais pas du tout. Il est célébré en 1855 par une première grande rétrospective. Et quand il revient au salon en 1859, avec des études de vagues et de sous-bois et des tableaux kitsch représentant des baigneuses dans un décor idyllique, bah, tout le monde lui tombe dessus. Sa peinture est incomprise, m'a dit Sébastien Allard.
En regardant les critiques qui l'ont enterré en 1859, en disant « mais Monsieur Delacroix est mort depuis longtemps, il faut qu'il arrête de peindre », c'est très cruel. C'est un peu comme les critiques qui ont été émises avec le dernier Picasso. Il y a un vrai sujet sur les artistes qui ont été panthéonisés de leur vivant et qui ont l'audace, on pourrait dire, d'essayer de faire quelque chose d'autre que ce qu'on attend d'eux.
Il se dégage une émotion particulière du dernier tableau réalisé par Delacroix, « Quand arabe la nuit », qu'il peint en 1863, quelques jours avant sa mort. Un tableau nocturne, comme il en fait très peu, mais qui rassemble peut-être ce qu'il a le plus cherché à saisir. Le regard des chevaux, la compagnie des hommes, la lumière d'un feu, le danger de la mer et l'immensité du ciel, à découvrir au musée du Louvre jusqu'en juillet prochain.